Ben, je voudrais vous parler aujourd'hui, mais c'est extrêmement difficile de parler vraiment. On parle très facilement lorsqu'on se rencontre, les universitaires en particulier savent très bien causer, spontanément, mais rien n'est plus difficile que les choses les plus naturelles, en un certain sens. Parce que causer comme on fait une conférence, c'est possible, mais ça ne présente pas un très grand intérêt. Je crois qu'à partir d'un certain âge, on est saturé de conférences. Soit qu'on les fasse, soit qu'on les écoute. Alors je voudrais essayer de vous parler sur un autre plan, un plan plus véritablement humain. Un plan d'homme. C'est un plan difficile parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, spontanément, lorsque nous parlons entre hommes, nous ne parlons pas d'une manière humaine. Nous parlons d'une manière superficielle, d'une manière extérieure. Il y a tout de même en nous quelque chose de plus profond que la relative profondeur des conversations que nous pouvons avoir les uns avec les autres lorsque nous laissons aller à notre penchant naturel de causer. Car causer, d'une certaine manière, c'est une façon de remplir le temps. Alors je voudrais vous causer en homme et en chrétien. Mais je dirais que surtout en homme. Parce que en chrétien, c'est très difficile. Et oui, parce que nous avons une hérédité de christianisme qui fait que nous parlons trop facilement de christianisme. Un peu comme les professeurs parlent trop facilement de pédagogie quand ils sont ensemble. Comme je vous dis toujours, comme je vous disais tout à l'heure, rien n'est plus difficile que le plus simple. Alors, essayez de vous parler en homme, et je pense qu'en parlant en homme vraiment, d'une certaine manière, on parle déjà en chrétien. Mais on en parle d'une manière renouvelée. Ce dont nous avons le plus besoin actuellement, c'est de renouveler notre christianisme, non pas pour faire des choses vraiment nouvelles, mais pour retrouver nous-mêmes, par une sorte de redécouverte personnelle, des choses au fond très anciennes, mais qui n'ont pas été jusqu'à présent explicitées de la même manière. Alors je voudrais vous parler en homme. Pour vous parler en homme, il faut que je sois présent à moi-même. Pour que vous m'écoutiez en homme, il faut que vous soyez de votre côté présent à vous-même. Il faut que ce que je vous dise corresponde à ce que je me dis moi-même lorsque je suis seul avec moi-même. Et il faut que ce que vous écoutiez soit précisément ce que vous vous dites ou que ce que vous voudriez vous dire à vous-même lorsque vous êtes seul avec vous-même. Alors il faut essayer, voyez-vous, actuellement, si vous me permettez, une sorte de préparation psychologique, que nous arrivions à être chacun présent à nous-mêmes en même temps que nous sommes présents les uns aux autres. C'est d'ailleurs la seule vraie présence. Les autres présences ne sont que des présences de l'épiderme. Bien, lorsqu'un de nos anciens, un très ancien, on ne connaît même pas son nom, a osé écrire dans un vieux livre, un très vieux livre, que l'homme était fait à l'image de Dieu, je pense qu'il a surtout voulu expliquer à ses contemporains la place que l'homme pouvait avoir dans la création. Parce qu'à cette époque-là, on savait très bien ce qu'était Dieu. Et on pensait que, en disant que l'homme était fait à l'image de Dieu, qu'on expliquait ainsi et qu'on montrait ainsi que l'homme était à la tête de la création, on était pour ainsi dire le délégué de Dieu. Ça correspondait à une pente que nous avons tous, qui consiste en général à vouloir expliquer le moins obscur par le plus obscur. Ce qui est déjà très difficile à connaître, par ce qui est peut-être impossible à véritablement approfondir. On expliquait l'homme, la position de l'homme, à partir de ce que l'on croyait connaître de Dieu. Et c'est une pente naturelle, même à notre époque, je dirais même elle sévit terriblement, malgré tous les progrès scientifiques et toutes les classes dans lesquelles on essaie de donner un peu de rigueur aux esprits. Spontanément, quand quelque chose nous est difficile à comprendre, nous essayons de l'expliquer par quelque chose qui nous est encore un peu plus obscur. Je vous en donner un exemple pour vous amuser un petit peu, parce qu'enfin, il faut se distraire. Cet hiver rigoureux, vous voyez, ben, mon Dieu, on pourrait essayer de l'expliquer pour des raisons physiques, des raisons. Mais vous trouverez certainement des gens qui vous diront, oh, mais ça, c'est certainement la conséquence des explosions nucléaires en haute atmosphère. Les explosions nucléaires en haute atmosphère, ils savent absolument pas ce que ça veut dire. Mais ça leur paraît une raison suffisante, parce que suffisamment obscure, pour expliquer des choses qui, en un certain sens, sont beaucoup plus, je dirais, sont beaucoup moins inconnaissables. Un hiver rigoureux qui, malgré tout, n'est pas le premier hiver rigoureux que nous avons connu, ou que les hommes ont connu depuis les origines. Donc, vous voyez, cette pente spontanée que nous avons tous, sur laquelle il faut absolument que nous réagissions, nous expliquons, nous cherchons toujours, spontanément, nous expliquons, le moins obscur par le plus obscur. C'est une pente sur laquelle, contre laquelle il faut certainement profondément réagir. Eh bien, réagissons. Eh bien, cet homme très ancien qui nous a dit que l'homme était fait à l'image de Dieu, au fond, nous a rendu un très grand service, sans le savoir, parce qu'il nous a peut-être indiqué que la voie par laquelle l'homme pouvait découvrir Dieu, c'était lui-même. Que la parole de Dieu la plus expressive, la plus puissante pour exprimer Dieu, c'était peut-être pas tellement la création, c'est-à-dire le ciel et la terre, mais que c'était l'homme lui-même. L'homme est une parole de Dieu et peut-être la parole de Dieu la plus profonde que Dieu ait jamais proférée. Et de telle sorte que d'une certaine manière, pour découvrir Dieu, dans la mesure où cela est donné à l'homme, il lui est d'abord nécessaire de se découvrir lui-même, se connaître. Qui suis-je? Dans la mesure où je me découvrirai moi-même, dans ma profondeur, dans ma réalité intime, je serai sur le chemin de la connaissance de Dieu. Beaucoup plus qu'en contemplant les étoiles, le monde extérieur. Chose singulière, au début de l'humanité, certainement, on a beaucoup plus atteint Dieu, on l'a cru atteindre Dieu, à travers la création, et à mesure que la science se développe, Dieu s'éloigne à des distances qui sont plus qu'astronomiques, sur tous les plans. Et nous autres, notre grande ressource maintenant, ce n'est pas tellement de chanter la gloire de Dieu à travers les cieux, mais c'est de chanter la gloire de Dieu à travers l'homme, découvrir l'homme pour découvrir Dieu. Eh bien, accepter cette position, qui est une position de base, vous savez, je ne suis pas du tout infaillible, parce que je vous dis, vous pouvez exactement penser le contraire sans difficulté. Accepter cette position qui va être le centre, la base de ma méditation. Donc, c'est en découvrant l'homme, dans sa profondeur, dans toutes ses possibilités, dans tout ce qu'il appelle, pour devenir plus lui-même, qu'il peut s'approcher autant que ça lui est donné, de Dieu lui-même. Eh bien, il y a trois grandes réalités humaines qui sollicitent l'homme à mesure qu'il devient un peu plus homme, qu'il devient un peu plus adulte, et qui, pratiquement, en fait, depuis tout le temps, ont servi à parler de Dieu. Mais je dirais sous une forme plutôt imagée, une forme symbolique. Pas sous la forme plus substantielle, plus existentielle, dont je viens de vous parler. L'amour, la paternité, et puis cette autre chose, cette autre manière, prise de conscience qu'on est soi-même mortel, la mort. Je n'insiste pas, parce que c'est trop large, trop important. Je ne vous parlerai ni de l'amour, mais vous comprenez bien que l'amour a servi dans une grande mesure à nos mystiques pour parler de Dieu. La mort aussi. Incontestablement, on pourrait raccrocher à cette grande idée d'une mort, la prise de conscience de la mort, l'idée de sacrifice, prise dans le sens le plus initial du terme. Je vous parle simplement, ce matin, de la paternité. Nous allons approfondir, autant que cela nous est donné, cette grandeur humaine qui nous est proposée, celle de la paternité, pour découvrir à travers elle peut-être quelque chose de Dieu. Et remarquez, je suis bien dans la ligne la plus traditionnelle, parce qu'enfin, depuis longtemps, on nous a assuré que Dieu était Père. Mais oui, mais quel Père? Il y a beaucoup de manières d'être Père. Et suivant la manière dont nous concevons la paternité, évidemment, nous avons une idée différente de Dieu. Prenez un enfant qui est abandonné de son père. Vous pouvez lui dire que Dieu est père. Ça ne lui donne pas une très bonne idée de Dieu. Dans la mesure où nous approfondirons l'idée de père, nous en découvrirons la grandeur. Évidemment, nous serons plus aptes à découvrir la grandeur de Dieu à travers. Donc, je vais commencer par vous faire une méditation sur la paternité. Bah, d'une manière précise, je vais prendre la paternité, une paternité très particulière. La paternité du père pour son fils. Je limite donc de mes perspectives actuelles, pour être rigoureux, par exemple la paternité du père pour sa fille. Éliminons ça pour le moment. Et ne confondons pas du tout la paternité avec la maternité. Il y a un abîme entre les deux. Par conséquent, je ne vous parlerai donc que de la paternité, pour le moment, que de la paternité du père pour son fils. Bon. Il est très facile à un homme d'être père. Je dirais même que c'est presque trop facile. Mais il est difficile d'être père jusqu'à la fin. Je dirais même que c'est si difficile que c'est assez peu concevable. Au départ, on est père sans difficulté. Mais quand l'enfant prend un peu de taille, un peu d'âge, bien souvent, le père n'est plus père que par le souvenir. Quand l'enfant est marié, par exemple, même souvent avant, il est encore notre fils par le fait même que nous l'avons engendré. Mais enfin, c'est plutôt un souvenir du passé qui est le fondement de notre paternité actuelle qu'une réalité encore présente qui fait que nous sommes pères actuellement vis-à-vis de notre grand-fils, évidemment d'une manière différente de celle que nous pouvions avoir au départ lorsqu'il avait quelques mois, mais d'une manière tout de même réelle qui fait que aucun autre homme ne peut prétendre ni ne peut avoir vis-à-vis de lui le rôle, la présence que nous, par le fait que nous sommes son père, nous avons. La plupart des paternités, je dirais, disparaissent progressivement, s'estompent progressivement et deviennent des paternités du souvenir. Remarquez, je ne suis pas du tout actuellement en train de faire des choses dramatiques. Ça peut être très sympathique. Le fils vient voir son papa avec sa femme. On est très gentil avec papa, avec maman, surtout qu'il y a les petits-enfants à garder en plus. Il y a toutes sortes de considérations qui font que la famille est vraiment très sympathique, mais d'une certaine manière, le père n'est plus que le père que parce qu'il l'a été, et en définitive, ça ne va pas plus. Ça ne va pas plus. Et pourtant, je crois que ça doit aller plus loin, et que même si, sociologiquement parlant, par le fait même que la société, je dirais, excuse les choses, que la société, d'une certaine manière, les légalise en les rendant communes, même si la société considère que c'est une paternité réussie, c'est au fond une paternité qui a échoué. Être père, ce n'est pas simplement être père au départ, c'est être père jusqu'à la fin, et même un peu au-delà. C'est-à-dire que le père doit être présent à son fils en tant que père, non seulement encore pendant qu'il est en vie, mais après sa mort. Père doit rester, doit devenir de plus en plus, d'ailleurs parce que le fils y a d'ailleurs quelques facilités supplémentaires à ce moment-là, comme une sorte de lumière, une sorte de fanal, une sorte de compréhension, de source de compréhension de la vie, qu'il ne pourrait pas avoir s'il ne l'avait pas eu. Alors je vais essayer maintenant d'approfondir un peu cette notion de paternité. Il est certain que le père de la fin, le père idéal, le père quasi inexistant, le Père vers lequel nous devons tendre, l'étoile qui se présente à notre ciel de Père lorsque nous commençons à avoir des enfants, et qui, mon Dieu, s'éteint assez vite. Ce Père-là ne peut pas être évidemment comme le Père du départ, le Père d'autorité, celui qui non seulement qui donne du biberon à son garçon quand la femme n'y est pas, mais le Père qui commande, qui dirige, qui défend, qui pendant un certain temps est nécessairement, je dirais, un Père d'autorité. Il est certain que quand on a un enfant de 5 ans, on ne peut pas, on doit le commander. Il a besoin, je dirais même, mais presque au départ, parce que ce qu'on pourrait appeler, évidemment assez déplaisant, parce que c'est tout de même un peu brutal, un certain dressage. Mais il est certain que si un père pense dresser ses fils jusqu'à l'âge de 60 ans, il aura probablement quelques échecs. Pas toujours. Remarquez, si nous étions dans une société patriarcale, où le père, ça existe, où le père, jusqu'à la fin de sa vie, est le chef incontesté de sa famille, de telle sorte que les enfants et les belles-filles sont comme ça devant lui. La société aidant, l'autorité du père peut subsister, de telle sorte que, d'une certaine manière, la crise paternelle que je vous signalais tout à l'heure ne se présente pas. Mais nous ne sommes pas dans une société patriarcale. Le père patriarche, mon Dieu, ça peut peut-être encore exister dans certains coins, mais c'est de plus en plus rare. Et je dirais même, d'une certaine manière, c'est très heureux. Parce que si le père qui réussit à être patriarche jusqu'à la fin de sa vie ne connaît pas vraiment de crise, c'est dû à ce qu'il n'a pas vraiment grandi dans la paternité. Il est resté le père du départ, si vous voulez, une sorte de père infantile, grâce précisément aux conditions sociologiques qui ne lui ont pas donné l'occasion de grandir, de devenir adulte dans l'ordre de la paternité. Le patriarche, j'ose employer cette expression malgré tout le respect dont nous entourons ce terme, est au fond un infantile, s'il reste patriarche sur le plan d'une autorité absolue comme ça a pu exister jadis. Il faut donc par conséquent que le père change de position vis-à-vis du fils, de manière à rester.